Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, le Pierre Ducrot, Jérôme Rotten, à propos de cette déclaration de Thierry Henry, j'ai dit il y a quelques jours en l'entendant que tout de même c'était du niveau prof d'histoire géo de 4e. Et du coup j'ai reçu des messages de prof d'histoire géo de 4e qui m'ont dit ouais quand même c'est pas sympa.
Donc, ouais, tu vois, c'est pas sympa.
Je tiens à préciser que, évidemment, aussi, hein, je soutiens tous les profs d'histoire géo, quel que soit le niveau où ils enseignent.
Moi, les profs d'histoire, ils m'adoraient, tu sais.
Ah oui ?
J'étais tellement fort que.
Ah ouais ?
J'étais le chouchou des profs d'histoire.
Ah, c'est une des matières les plus
intéressantes. Décidément, tu es fort partout, toi, en cuisine, en tennis. Non,
tu vas vite faire le tour, hein, tu vas encore dire 3-4 trucs et tu auras fini, hein, donc ce sera pas en tout.
3-4 trucs, c'est pas mal quand même. Hein. C'est quoi les 3-4 autres?
Ouais, attention, là, je pense que c'était quasi fini là. Hein.
Pour parler de Rennes, Pierre-Yves Leroux, il devait être très fort en histoire. Histoire du Tour de France.
Ah, écoute, j'ai eu une maîtrise d'histoire.
Bravo, Pierre-Yves. Ah, bah, voilà. Quelle période t'aimais?
J'étais spécialisé dans le néolithique, monsieur.
Ah bon?
Quelle idée le néolithique?
Quelle idée?
En Bretagne.
Le néolithique, c'était une référence à Swado?
Enfin, bon, tu t'es pris pour Indiana Jones à un moment? T'as essayé d'aller creuser
Karnak,
Karnak pour aller voir les menhirs là, c'est ça?
Oui, forcément.
Et toi aussi, tu t'es toujours demandé à quoi ça pouvait bien servir?
Et on se demande encore.
C'est mystère alors du
on
coup.
On se demande encore. C'est un peu
voilà,
comme
donc finalement ça servait à rien. Tu te demandes encore à quoi ça sert.
Enfin, pour revenir à Florian Maurice, tu ne m'as pas rassuré, Daniel.
Alors attendez. S'il vous plaît, j'aimerais qu'on accueille l'homme qui va peut-être piller le Stade Rennais cet été. J'ai nommé Fred Hermel à Madrid. Salut Fredo.
Je suis pété de thunes, enfin. Le club
le,
que je suis
le Stade Rennais, non. Il veut juste
Mavinga.
Salut Fredo.
Comme t'arrives pas à piller le PSG, tu t'en prends à Rennes, quoi. C'est plus de votre niveau.
On a le temps. Et l'histoire, moi aussi, j'étais bon en histoire. C'était cool. Ça m'étonne pas que Daniel soit bon en histoire.
Fred, est-ce que c'est vrai, là, cette rumeur que le Real est prêt à mettre beaucoup sur Flavien Tête, là? T'as entendu parler de ça ou pas?
Bah ouais, t'es con. Moi, je suis un truc sérieux, là.
Oh, bah non, tu sais qui c'est, sans déconner, tu sais qui c'est ou pas?
Sincèrement, je sais pas.
Non, je serais Joe.
C'était ça que je voulais entendre. Sincèrement, je sais pas qui c'est, il a dit.
Sincèrement, je sais pas qui c'est. C'est qui, Flavien Tête?
C'est dans l'effectif du Stade Rennais.
Tu perds à ne pas savoir. Toi qui aimes bien les beaux footballeurs.
C'est
un joueur qui joue au même poste que le futur Ballon d'Or, tu sais, Asensio.
Bah, il va mieux, Asensio, tu sais. Je ne sais pas si tu t'es déjà fait les croisés.
Le Real et Lens.
Excuse-moi, c'est vous qui à chaque fois me. Enfin, il se trouve que j'habite à Madrid et que c'est un peu mon métier.
Alors, Flavien Tézé, c'est le même poste que Gaëtan Robaille à Lens. Voilà, si ça te parle plus, là, déjà.
Ouais, ça va, là, ouais.
Alors, s'il vous plaît, avant que Fred nous parle de Camavinga, puisque c'est ça le personnage central de l'histoire, j'aimerais qu'on accueille Valentin, qui est supporter du Stade Rennais. Valentin, bonsoir.
Salut les gars, ça va?
Ça va et toi?
C'est ça va, super. Alors moi aussi, j'adore l'histoire les gars, mais j'avais pas prévu de parler de ça ce soir.
Bon, on va parler de Florian Maurice, qui va peut-être rentrer dans l'histoire du Stade Rennais, va savoir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Florian Maurice?
Bah écoute, moi je suis un peu dubitatif, hein. Au-delà de ses choix en termes de recrutement sur les dernières années, moi ce qui m'interpelle, c'est plus son profil. Si je reviens un peu en arrière, à l'OL, Florian Maurice, c'est donc consultant à OL Télé, membre de la cellule de recrutement de l'OL avant de la diriger quelques années après. Moi, forcément, je fais des comparaisons, c'est pas bien, mais je compare quand même par rapport au vécu d'Olivier Létang avant d'arriver au Stade Rennais. Mmh. Et Olivier Létang, donc, c'est directeur sportif adjoint au PSG où il se fait la main avec Leonardo, puis carrément directeur sportif du PSG en chef après. Donc moi, c'est plus son vécu qui m'inquiète un peu. Parce que bon là sur un poste de chef de cellule de recrutement, c'est pas pareil qu'un poste
tu trouves
de directeur
un peu tendre,
sportif,
quoi, peut-être.
Où tu coordonnes la politique sportive d'un club au global, quoi.
Non, mais t'as raison. Mais il y a un questionnement.
Qui était directeur sportif à Lyon aussi pendant ce temps-là?
Personne.
Il y a eu Juninho, il y a eu Bernard Lacombe.
Ah merci. Non. Juninho c'est très récent. T'as raison.
C'est très récent.
Sur les années de Flo Maurice direct, enfin qui gère la cellule de recrutement. T'as pas de directeur sportif et moi je peux te dire qu'en termes de réseau,
qu'il y a pas de directeur sportif
détendu des fonctions. Flo Maurice avait celle quasiment.
C'était pas Gérald Baticle.
Est-ce que pour toi Florian Maurice par exemple touchait à tout ce qui était la formation, est-ce qu'il avait des relations plus ou moins directes avec l'équipe première comme il va pouvoir en avoir désormais au Stade Rennais?
Flo, bah, des relations, il en avait avec Bruno Genesio, oh,
oui.
Ça c'est sûr, apparemment.
Oui, ah, non, mais il était en permanence avec. C'est normal que tu lui fasses tes rapports de scouting sur les joueurs.
Ah, j'ai pas compris ta question alors. C'était quoi ta question? J'ai pas compris alors. S'il avait des rapports avec qui?
Florian Maurice avait un rôle de directeur sportif à l'OL, à savoir ce qui peut toucher sur la coordination globale de la politique sportive. Je pense à la formation des joueurs. Tu touches un peu à tout quand même en tant que directeur sportif. T'as la formation des joueurs, t'as des relations un peu plus directes avec les professionnels et avec l'entraîneur, ou une relation du moins qui est tout autre.
Il n'avait pas la gestion de la direction sportive, mais je peux te dire qu'à Lyon, oui, il touchait à tout. Il était en relation permanente avec la formation et la post-formation. Ça, j'en suis certain. Je peux te le dire. Et effectivement aussi avec les pros en permanence, que ce soit le président, le coach, etc. Et en termes de réseau, je t'assure que c'est pas là-dessus qu'il faut s'inquiéter.
Moi, je m'inquiète pas en termes de réseau. Et pareil, pour revenir sur ces échecs en recrutement, tout le monde en a eu, hein, même Olivier Létang.
On peut citer
les exemples de Péfoc ou de
Diakrafako.
Tout le monde en a, il y en aura toujours, et y compris au Stade Rennais. Mais moi, ouais, c'était plus son vécu qui m'inquiétait, et ça me paraissait un peu light par rapport à ça.
Alors on va clôturer le chapitre Florian Maurice. Valentin, merci en tout cas.
Juste les gars, je voulais passer un petit message. Ça fait 13 ans que je vous écoute. Je vous ai écouté la première fois au soir d'un Lyon à Estroma, les passements de jambes de Mancini. Et je voulais vous remercier pour tout ce que vous faites. Franchement, vous êtes les kings du journalisme sportif. Je vous adore.
Eh ben, Valentin, merci. D'ailleurs, regarde, j'ai un tweet de Rico qui nous parle de Trump. Écoutez bien, il nous dit, parce que ça rejoint ce que dit Valentin. Il dit, mais en fait, les gars, Trump, il est en direct tous les jours. Il dit tout ce qui lui passe par la tête. Il bâche les médias. Il dit n'importe quoi. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il balance des métaphores sportives. En bref, Trump, c'est l'afterfoot des Américains.
je sais pas comment on doit prendre ça, mais effectivement. Rico.
C'est pas faux.
Il nous chambre.
C'est pas faux.
Merci Valentin.
Sauf que nous, tout ce qu'on dit à 80%, ça se vérifie toujours. Ce qu'on dit depuis 14 ans, ça se vérifie toujours à minimum 80%.
Et comme Trump, le melon. Mais oui, c'est ça, on dit là.
Minimum 80% vérifiable. Et puis alors, je vais vous dire, plus je vois.
Encore plus depuis 4 ans.
Avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, et tous les scientifiques, les économistes, les machins, tous ceux qui ont dit pour le coup tout et son contraire pendant pas mal de temps, je me dis que finalement tous ceux à nous qui nous reprochent dans le foot une ou deux erreurs par-ci par-là, et je le répète, elles sont très très rares, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal en tant qu'expert de notre domaine.
Après le dossier Florian Maurice, parlons maintenant du mercato. Pierre-Yves va lui dire un peu ce qui se trame, et ensuite Fred pourra évidemment venir avec son gros portefeuille.
Ah oui, parce que tu veux un bilan global sur le Stade Rennais.
Non, mais parce qu'il y a des trucs. Déjà, dossier Traoré.
Oui.
Traoré et le PSG.
Oui. Donc c'est un garçon qui déjà il y a un an avait des velléités de départ. Mm-hmm. Il estime aujourd'hui que c'est le moment de quitter Rennes pour viser haut. C'est un garçon qui est ambitieux. Donc la carte parisienne, le plan parisien, évidemment, lui irait bien. Sauf que je suis pas certain que ça soit pour un rôle de numéro 1, même si c'est un bon joueur.
Attention.
Ouais, je pense qu'il a envie de jouer, quoi, aussi.
Arrière droit, je le rappelle, à Marie Traoré.
C'est du 1 bis où tu peux t'imposer si tu prends la.
Ouais,
la
exactement. Si tu veux quand même y avoir mieux en arrière droit à trouver en Europe, hein. Pour le PSG, ça me paraît un peu léger, tout ça, moi, mais bon.
Oui, il y a toujours mieux, t'as raison. Tu peux toujours trouver mieux.
Bah, toujours mieux, vas-y, toi, Daniel, aujourd'hui. Aujourd'hui.
On prend un mec qui a fréquenté le très haut niveau, là, on prend quelqu'un qui.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est.
Mais je dis pas qu'il est pas bon, attention, mais.
Non, mais Pierre a raison, ce que je veux dire, c'est. C'est vrai que c'est un bis, mais bon, regarde, quand Meunier est arrivé en France, excuse-moi, il n'avait pas connu le.
Il venait de Bruges.
Écoute, Bruges, alors, dans le championnat belge, c'est incroyable, Meunier, Bruges.
Jérôme, Meunier, il a fait une bonne saison. Pour le reste, s'il s'en va, son passage.
Non, mais je suis d'accord
mitigé,
avec toi.
Ça restera, mais rien. Et pourtant, moi, je l'ai défendu quand il était bon, hein.
Ouais, c'est vrai.
Aujourd'hui,
c'est
le bilan global, c'est que c'est plutôt mitigé, quoi.
Je suis d'accord.
Revenons à
Mais pour dire que Traoré, en effet, le rôle de numéro 1 bis. Oui, après, ça sera à lui de se mettre au niveau. Et ouais, là, voilà, il va passer 2, 3, 4. Mais bon, pourquoi pas?
Après,
parce que
Liverpool a bien révélé deux latéraux que personne connaissait.
Mais,
hein, donc,
exactement. Voilà. Et bien, il a tout. En fait, il a tout. Alors, même s'il a 27 ans, mais il a tout du latéral moderne. Il a une caisse monumentale. Franchement, il peut te faire 20 allers-retours par mi-temps. C'est pas un souci. Il a toujours la même pêche. Peut-être que techniquement, en effet, t'as mieux ailleurs en Europe, mais le fait de jouer avec des joueurs qui, quand tu fais un appel de balle, te mettent le ballon là où il faut, et ce sera le cas au Paris Saint-Germain plus qu'à Rennes, peut-être que en effet, ces gestes techniques, c'est plus facile à réaliser quand le ballon il vient bien. Et donc, ça peut être une bonne surprise, pourquoi pas.
Il négocie une prolongation. Enfin, Nicolas Hoelweck essaie de négocier une prolongation. C'est compliqué, effectivement. Marie Traoré a plutôt envie de partir du Stade Rennais. Ouais. Mais il y a beaucoup de travail de toute façon à faire du côté du Stade Rennais, hein, parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et Camavinga.
Vas-y.
Camavinga, c'est évidemment le gros dossier du côté du Stade Rennais. Et Julien Stéphan espère pouvoir le garder une année supplémentaire.
Il dit ça, mais en même temps, il dit Stéphan, il a tout pour jouer dans un très grand club.
Oui, mais parce qu'il parle.
Il dit qu'il veut absolument le garder. Et puis ce que veut tout le monde, c'est qu'il parte pour un maximum d'oseilles et tout. Hein. L'idée, c'est ça. Hein.
Oui.
L'idée, c'est la rentabilité.
Oui. Après, faut pas oublier, parce que je sais que Fred va nous expliquer que le Real a beaucoup d'argent, mais le Stade Rennais a potentiellement beaucoup d'argent et peut éventuellement attendre un petit peu, parce que le contexte actuel fait qu'on ne sait pas trop qui va être capable de sortir des gros chèques dans les prochains mois. Et or, François Pinault peut estimer que Camavinga peut rester un petit peu, voilà, une année de plus. Et puis, il y a un autre argument pour Julien Stéphan, c'est peut-être de lui dire. Mon garçon, reste encore une petite année avec nous. C'est pas le moment de partir quand tu auras l'euro dans un an.
Ah, ouais. Alors Fred, qu'est-ce qu'on dit à Madrid de Camavinga?
C'est un joueur qui est suivi par le Real depuis un petit moment déjà. Ça fait plusieurs mois que des articles, des rumeurs, bon, et puis moi mes infos aussi me convergent là, vers ça, dans le sens où, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, c'est que le Real a quand même changé de politique il y a quelques années, en disant on ne peut pas concurrencer au niveau argent les Anglais, donc on va pas dépenser n'importe comment. On va faire un Galactique, on peut mettre 300 millions sur un Neymar ou un Mbappé, ça je vous l'ai expliqué plein de fois, mais pas question de mettre 150 millions comme les Anglais sur un joueur lambda entre guillemets. Donc il y a une vraie politique de miser sur des jeunes. On l'a vu par exemple avec Vinicius, avec Rodrigo, avec qui encore, le jeune Reynier. Voilà, le Real peut mettre 30, 40 ou 50 sur un joueur de 16, 17, 18 ans en se disant que finalement ça peut marcher. Et c'est le cas par exemple avec Llorente, Valverde, il a pas coûté très cher, mais c'est aussi un de ces exemples de ces jeunes joueurs. Ça peut marcher, et puis finalement si ça marche pas, tu arrives toujours à le revendre sans perdre trop d'argent puisqu'il t'a pas coûté trop cher. Ça c'est la première chose. Donc
sauf que t'auras pas Camavinga à 30 ou 40 en fait.
Mais je vous dis, c'est expliqué par rapport à la politique, par rapport à la politique du Real. L'âge de Camavinga
40, c'est ce que l'été dernier Rennes aurait pu le vendre déjà.
Oui, alors attends, je termine simplement le truc, c'est qu'il entre totalement dans la politique de jeunes du Real Madrid. Ensuite, il faut voir le contexte après tout ce qui se passe et les crises, et la crise énorme que tout le monde est en train de vivre. Il y a des clubs qui sont mal financièrement, la plupart. Le Real a élaboré un plan, on vous l'a expliqué, avec une baisse des salaires des joueurs et des dirigeants de 10% si la Liga reprend et de 20% si la Liga ne reprend pas. Sans chômage partiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'argent d'État qui va compenser, comme c'est le cas au Barça ou à l'Atlético. Le Real a beaucoup d'argent. Et donc le Real va être sur le marché un club finalement plus puissant que d'habitude, que ces dernières années, et Dieu sait s'il était déjà, justement parce que le Real a des liquidités là où les autres ne l'ont pas. Prenons l'exemple, par exemple, d'un Pogba où on demandait 150 millions l'an dernier. Si le Real va chercher Pogba cet été, ça sera pas ce prix-là. Et Camavinga,
Rennes n'est pas en difficulté.
Non, mais est-ce que le Rennes n'est pas en difficulté?
Mais
dans combien de temps? Mais combien de temps Rennes va pouvoir résister au Real sur Camavinga? Le Real va pas mettre 100 millions, hein. Mais tu dis un 40 millions. Le Real peut mettre 40 millions sur Camavinga.
Mais c'est pas suffisant.
Pierre te dit 40 millions, ouais.
C'est pas suffisant, 40.
Ah non, mais d'accord, mais attendez,
mais personne va l'acheter à 40 millions.
Il est bon, Pierre, dans les négos.
Rennes, comme beaucoup de clubs français, essaye de faire un jackpot sur son joueur phare. Mais pour l'instant, les recruteurs doivent l'avoir dans le nez. Ils savent un peu qui c'est, tout ça. Mais enfin, pour l'instant, il est jeune et il n'a joué qu'en Ligue 1. Donc, généralement, c'est les Anglais qui cassent les tirelires sur ce genre de joueurs qui n'ont pas encore de grosses références.
Peux avoir un club français comme le PSG aussi, Daniel.
Ouais, non, mais bien sûr. Mais
en tout cas, pour l'instant, il y a pas de
combien
proposition.
Tu mets, c'est ça le truc, c'est combien tu vas mettre, quoi.
Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas d'offre concrète.
Non, mais là où Pierre-Yves a raison, c'est que Rennes peut résister, Rennes peut attendre un an, et moi je suis persuadé que Eduardo Camavinga dans un an vaudra au moins autant que cette année, voire plus. J'en suis persuadé. Il est très très jeune, il a 17 ans, il a un gros potentiel. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et il y a une autre chose qui dans ces dossiers-là est importante. Tu as compris ce que j'allais dire. Il y a une autre chose dans ces dossiers-là qui est très importante, c'est la volonté du joueur. Est-ce que le joueur lui peut résister encore un an à l'appel des... j'ai tendance à penser dans ce dossier-là que et le joueur et l'entourage du joueur sont très sains et réfléchissent. Ouais. Vraiment en termes de gestion de carrière
c'est
et
pas
de
en
ce
termes
qui,
de thunes.
De ce qui, non, parce que déjà il gagne très bien sa vie à 17 ans et il est pas là-dedans et il sait que dans un an il aura des propositions au moins équivalentes voire supérieures.
Sauf que Pierre, je veux bien ta réflexion et que l'entourage soit bien, que le gamin il ait la tête sur les épaules, très bien. De toute façon, on l'a vu en restant à Rennes cette année, alors que déjà l'année dernière au mercato, il y avait du monde dessus. Donc voilà, il a appris, il est resté. Je pense que cette année lui a fait énormément de bien. Si le club continue sa progression, si Rennes a la chance de pouvoir faire la Ligue des Champions, et on sait pas, il reste 10 journées de championnat, peut-être que ça sera le cas, et ben en effet il se dira écoute, je continue à progresser dans mon club formateur et c'est très bien, et de toute façon en effet comme l'a dit Pierre-Yves, l'année prochaine il y a l'Euro, alors bon, il part avec beaucoup de retard, mais on sait pas ce qui peut se passer. Les matchs de Ligue des Champions, on sait très bien que Didier Deschamps c'est aussi une référence, et que s'il brille en Ligue des Champions, Rennes aura du mal en Ligue des Champions, mais s'il arrive à faire des bons matchs, peut-être que là tout le monde dira le très haut niveau. Il arrive déjà à s'adapter.
Forcément, il se montre, évidemment.
Mais attention, par rapport à l'Euro, vous me donnez des arguments, vous donnez des arguments au Real Madrid en disant tu viens au Real Madrid, entraîné par Zidane. Ça aussi, pour continuer à progresser, c'est pas mal non plus. Pour être visible, c'est pas mal non plus.
Oui, mais parce que l'idée, c'est plus compliqué.
Non, je vous dis simplement, l'idée, c'est d'en faire la doublure de Casemiro.
Voilà, parce que là tu nous donnes un sacré argument et moi c'est ce sur quoi j'allais te répondre il va progresser au Real, ça c'est une certitude, un joueur avec ce potentiel là qui va dans un club comme le Real, en plus c'est un garçon sérieux qui écoute à l'entraînement, etc. il a beaucoup de qualités sur le plan d'état d'esprit. Mais tu l'as dit, il va être doubleur de Casemiro, donc il n'aura pas le temps de jeu dans les grands matchs. Oui, mais il n'aura pas le temps de jeu dans les grands matchs au Real, alors qu'il peut avoir passé un cap supplémentaire à Rennes. N'oublions pas, dans sa réflexion aussi, je pense, qu'il a eu du mal à finir la saison physiquement cette saison. Il a eu des creux, ça il le sait. Il sait qu'il a peut-être besoin à 17 ans d'avoir une saison de plus ou avec beaucoup de matchs pour garder un niveau d'intensité plus régulier et plus longtemps sur une saison.
S'entraîner,
et ça, au Real, t'auras du mal.
Mais regarde, à sa place,
je ferme les yeux et j'y vais. Hein. Varane est parti très jeune. Il a mis le temps. Il était à côté de Pepe Ramos.
Les yeux fermés.
Hein, je vais au Real.
Ouais, mais Daniel a raison. C'est avec qui tu t'entraînes aussi. Parce que vous savez mieux que moi, les mecs.
Non, mais ça
veut dire. T'imagines la progression. Avec tout le respect, c'est pas pareil.
Les autres, laissez parler.
Avec tout le respect pour Rennes, en plus qu'il y a. J'aime bien l'entraîneur et tout.
Enfin, oui, t'as pas les mêmes joueurs, on est d'accord, Fred.
Mais rien que d'être à l'entraînement, c'est automatiquement tu passes à une vitesse supérieure.
Je suis entièrement d'accord avec toi, Fred. C'est sur un plan de carrière ou un projet sur 2-3 saisons pour passer des caps. Là, je te dis que moi, il peut avoir une réflexion aussi. On n'en sait rien ce qu'il va faire. Hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Mais il peut avoir aussi une réflexion, comme le dit Pierre-Yves, avec un euro à la fin de l'année et une étape supplémentaire à passer. pour arriver dans un club comme le Real avec encore plus de potentiel et de compétences et s'imposer encore plus vite et passer ses caps parce qu'il est quasiment certain qu'il va arriver dans un club comme ça.
Surtout que ce choix-là,
Pierre-Yves et Jérôme ensuite.
Surtout que ce choix-là, que vous le fassiez à 17 ou à 18 ans dans un an, ça change pas non plus la donne.
On voulait pas 28 ans. Mais Pierre-Yves. Le problème, c'est le joueur. Après, le joueur, quand tu sais, on dit souvent et ça se confirme très souvent dans le football. Et Pierre, il peut pas me contredire là-dessus. C'est que le train, il passe qu'une fois.
Et
quand t'as le Real Madrid qui te veut là et qui fait une proposition, je sais pas, 40, 50, 60, j'en sais rien, je m'en fous. Et ben lui, même si il se dit, oui, la logique, ça serait que je reste à Rennes pour progresser, mais putain, il y a le Real. Il y a le Real et même doublure, je vais jouer comme dit Fred parce que il jouera parce qu'il a du talent. Et
parce que Zidane a une façon de travailler qui fait que tout le monde joue.
Mais oui. Non, mais il y a le Real. Franchement, il y a très peu de clubs qui peuvent te retourner la tête pour un jeune joueur, mais le Real, ça se refuse pas, quoi.
Il y en a qu'un seul au monde qui a dit non au Real en attendant. Il s'appelle Mbappé. Mais parce qu'il est Mbappé. Il y a que lui qui a pu dire au Real.
Parce qu'il allait dans un club qui lui donnait une fortune. Et qui lui permettait de jouer aussi à côté d'autres stars. Attention.
Les gars, il y a Jonathan au 32-16 qui est supporter du Real.
On sait comment ça s'est passé aussi.
Jonathan, bonsoir.
Allô?
Ouais, ça va?
Oui, bonsoir, ça va?
Et toi, Kamavinga, tu prends ou pas?
Mais jamais de la vie. Moi, j'ai une question à Fred. Je comprends pas comment le Real peut s'intéresser à un mec comme Kamavinga. Enfin, je sais pas. À un moment donné, t'es le Real ou tu prennes. Enfin, pour moi, il y a que Pogba qui peut arriver au milieu Real. C'est impossible qu'un mec comme Kamavinga même pourra en faire une doublure.
Quoi, trop jeune?
Il jouera un match dans tout le monde.
Je sais pas, regarde ce qui s'est passé ces dernières années.
Il compare avec Jovic. Jovic, il a joué.
Jovic, ça n'a rien à voir.
Les deux joueurs,
ça n'a rien à voir. Faut comparer avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Valverde. Jovic, c'est un cas à part. Jovic, c'est pas.
On doit même pas comparer, messieurs. Vous allez trouver forcément des cas de mecs jeunes qui sont partis au Real et qui n'ont pas marché, et puis des mecs jeunes qui sont partis au Real et puis qui ont très bien marché. Il n'y a même pas besoin de comparer. Il suffit de s'attarder, et là, je ne comprends pas, Jonathan, sur le potentiel du garçon. Il a 17 ans, n'oublie pas. On n'a pas dit que c'était un joueur abouti qui allait faire 4 saisons titulaires tout de suite au Real Madrid. On n'a pas dit ça.
Mais il a 17 ans, mais il a fait des bons matchs en Ligue 1, on est d'accord.
À un moment donné, tu commences par ça.
Si
tu as vu les matchs à 17 ans, tu vois qu'il a un potentiel au-dessus de la moyenne, même en Ligue 1.
Jonathan, il en veut pas. Qu'est-ce que tu veux?
Varane
avait, bon, il jouait dans un très grand club, mais il avait 14 matchs en Ligue 2. Donc, non, mais sérieux, non, mais c'est vrai. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que les, enfin, tu vois, nos éditeurs comprennent, c'est que le Real Madrid, la période galactique, j'achète 5 grandes stars d'un coup, ça n'existe plus, ça n'existera plus. C'est une grande star un coup de temps en temps,
ces joueurs-là, ils sont achetés en fonction d'un potentiel à développer. Exactement. Ils sont pas achetés pour jouer tout de suite là sur le moment. Ouais. Tu mises, alors ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais t'as quand même là quelques garanties quand même quand tu vois le garçon.
Messieurs,
il faudrait qu'il s'active pour être sûr que Flo Maurice arrive directeur sportif. Peut-être que là, en effet, la réflexion de Kamavinga va changer, quoi.
Alors, il paraît qu'à Rennes, il y a d'autres jeunes qui vont éclater bientôt. Alors, Gbo, on le connaît déjà un petit peu, hein, même s'il joue pas énormément. Et il paraît qu'il y a un jeune, selon certaines sources bien informées, qui s'appelle Ruther, qui va être également énorme dans les mois qui viennent.
Il y a aussi Dacuña, qui fait partie des jeunes qu'on a aperçu de temps en temps, mais
je l'ai vu jouer, pas mal.
Ouais, mais sauf que ça a l'air compliqué là aussi. Là, lui aussi des envies de partir. Et si on regarde toute l'équipe rennaise, ça va certainement énormément changer.
Vas-y, qui d'autre? Est-ce que t'as d'autres joueurs à citer qui sont susceptibles de partir là?
Il y a déjà Gnagnon, puisqu'il était en prêt du côté de Séville, donc du côté de la défense centrale, ça va bouger. Je pense que Grenier, on le reverra pas du côté du Stade Rennais, ça va être compliqué. Nyang aimerait bien lui aussi, pourquoi pas partir. Après, est-ce que ça sera l'OM? Est-ce que l'OM peut mettre 30 millions sur
Nyang, je ne sais pas. Mais ça serait une connerie. Franchement, c'est Nyang, et c'est pas contre lui. Je trouve qu'il s'est stabilisé à Rennes, vraiment.
Il fait sa meilleure saison.
avec tous les clubs qu'il a pu faire, parce qu'il a tellement voyagé, lui, qu'au d'un moment, quand t'es bien dans un club, il faut avoir conscience que, bah, ton niveau, il est peut-être là, quoi. Et que là, t'es au taquet, et que tu te, voilà, mais allez,
est-ce
allez
que le
encore.
Club et puis, veut le garder.
Ah oui, ah bah ça après je sais. Ça il faut
non, mais
on
c'est
va appeler
qu'à
le président.
Ce poste-là, tu le sais aussi mon gars, à ce poste-là quand tu fais une bonne saison voire une bonne saison et demie, t'as des contacts, enfin t'as des possibilités et à son âge, il a peut-être pas envie de passer à côté par contre lui. C'est peut-être ça aussi.
On a fait le tour.
Ouais, il a connu les grands clubs déjà. Hein. Il a connu. Alors peut-être qu'il était plus jeune en effet. Je suis d'accord, mais
il paraît qu'Edouard Mendy est également.
Pas vieux, hein,
mais... Edouard Mendy, le gardien, est également convoité. Pierre-Yves, tu confirmes?
Convoité, oui, mais je pense que le Stade Rennais va essayer de le garder quand même.
Et Mawasa aussi, paraît-il.
Oui, mais le problème, c'est que vous avez aussi Morel et Da Silva qui commencent à vieillir. Donc, il va falloir quand même aussi avoir une défense. Mawasa, ça fait partie des garçons.
Rennes, il y a quand même un truc. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quand même un turnover d'effectifs à Rennes à chaque fois. C'est un des clubs où il y a le plus de mouvement.
Ça bouge beaucoup. Oui.
Ça bouge énormément à Rennes. C'est dingue. Hein. Mm. Bon, je sais pas. C'est dans l'ADN de ce club, peut-être.
Oui, mais en revanche, les résultats sont plutôt stables depuis quelques temps.
Merci ça, Pierre-Yves pour toutes ces infos.
Mais 30 millions, c'est pas assez, Fred. Hein, va falloir.
Mais Pierre-Yves, tu restes.
Non.
Ah bah non, tu fais au moins
fois deux. Toujours rajouter 10 millions. Non mais il y a un truc.
Excuse-moi, Gilbert, j'ai relancé le débat.
Non, mais par rapport à ça, si le Stade Rennais espère gagner 70 ou 80 millions avec le Real, jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Ça, faut pas qu'il se fasse.
Je pense que la barre.
C'est pas grave. C'est rien.
Et Pierre-Yves, une question, tu restes Nantais quand même, non?
Moi je suis partout, tu sais, il y a tellement de clubs à gérer. Mais pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué avec Nantes, hein, donc ce sera plutôt rien.
Ouais, ça oui. Ah ça y est, t'as changé, d'accord.
Moi j'aimerais, Pierre-Yves, que tu surveilles de très près la coupe de cheveux de Valdemar Quitta à la fin du confinement. On risque d'avoir quelques révélations.
Physiquement, il y a beaucoup de choses à surveiller chez Valdemar Quitta, de toute façon.
Ah. Salut Pierre-Yves.
À bientôt.
Et je précise, ce soir, on a fait un dossier Rennes. Demain, on fera un dossier Bordeaux avec Nicolas Paolorsi, notamment pour parler d'un truc assez étonnant. À Bordeaux, on veut rapetisser le stade.
Ah oh ouais, non, oh, mais ça, j'ai appris ça, mais c'est.
Mon Dieu.
Et eux, ils sont de plus. Et c'est de pire en pire. Mon Dieu.
Franchement, je veux agrandir son stade, mais eux, ils veulent rapetisser le stade.
Mais ce non, mais qui laisse, là c'est quand même terrible.
Non, mais ce club, c'est horrible. C'est horrible.
Pierre, il est mort de rire.
Ça... Ah ouais, c'est disons que ça va coûter de l'argent encore, j'imagine un peu.
Mais dès le début, on avait senti que le stade était pour nous, on était allé.
Pour en gagner moins.
Non mais tu sais qu'ils veulent retirer. Non mais on en parlera demain, Gilbert. Mais ils veulent retirer. C'est vrai, 7000 places.
Bah oui.
Donc de passer de 42 000 à 35 000. Non mais
c'est quoi? Ils vont bâcher le haut de la tribune, par exemple. Et non.
Bah, si on sait pas. On verra demain avec Nicolas. Et puis on parlera mercato des Girondins également demain dans l'After. Fred. Reste
mais qui
avec
laisse le stade à l'UBB et puis qui retourne au parc Les Sures, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dis?
Moi j'adorais ce stade, Les Sures.
Il existe encore le parc Les Sures ou il a été détruit?
Bah oui, c'est le rugby qui joue.
Ah bah non, c'est le rugby. Oui, je suis. Exact,
bah oui, bah autant inverser le rugby, ils jouent le titre dans leur en top 14. Bah écoute, mais les Girondins laisse-les au Lescure, hein. Au moins ils feront la moitié, ils rempliront la moitié du stade le plus souvent et ça sera quand même mieux pour tout le monde.
Et puis après on réentendra. Ah, les joueurs sont dans le fameux tunnel de Lescure.
Tunnel, ouais. Ils arrivent dans 5 minutes.
Dans quelques instants, Fred va nous en dire plus également sur les stratégies du Real et du Barça en termes de recrutement. Parce que nous dire que le Real a plein de thunes, c'est bien joli, mais il faut que tu rentres un peu dans les détails. Et on apprend aujourd'hui que le Barça s'apprête aussi à faire un grand ménage. On va en parler dans quelques instants avec Fred. À tout de suite dans l'After.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Daniel Auriolo est là, Jérôme Rotten est là, Pierre Ducrot est là et Fred Hermel est là. Casting de rêve dans l'After, bien sûr, en attendant Julien Cazard dans quelques minutes. Et le tournoi, bien sûr, qui continue notre grand tournoi avec le 8e de finale Périnel Thomas. La pression monte pour Jérôme Thomas, je vous l'annonce. les gars, je réalise un truc en fait, là, parce qu'on s'amusait à faire nos projections de calendrier, mais le mois de septembre, il va être complètement dingue. En septembre, il va y avoir le foot, le Tour de France. Roland Garros, plus le rugby et tout le reste, mois de septembre, là, ça va être incroyable. Bon, bref, c'est une parenthèse. Fred, tu nous dis que le Real est blindé. Mais alors, est-ce qu'il y a déjà une stratégie, avant de parler du Barça, est-ce qu'il y a déjà une stratégie mercato un peu, comment dirais-je, lisible ou pas?
Bah, le premier cas, c'est bien entendu celui dont rêvait Zidane. C'est Paul Pogba. Enfin, Manchester United voulait 150 millions il y a un an, un peu plus d'un an, c'est-à-dire l'été dernier. Là, ils 150 millions, ils peuvent aller rêver. Je pense qu'ils peuvent, ouais. ils peuvent avoir Pogba à 50 ou 60 millions. Et donc là, oui. Rappelez-vous, quand Zidane est revenu le 11 mars.
Attends, même prix que Camavinga, quoi.
Ah ben tu vois. Ben oui, pour les deux, 100 millions, t'en as deux. C'était la pierre angulaire du projet de Zidane, faut pas l'oublier. Et il n'a pas vraiment été respecté, ce pacte, par la direction, parce que je vous l'ai expliqué plusieurs fois, comme Florentino Pérez, jusqu'à la dernière minute, il s'est dit, si jamais le PSG veut plus de Neymar, et comme le Barça n'a pas d'argent, peut-être que je peux l'avoir pour un bon prêt à la dernière seconde du mercato. Ça, on l'avait souvent raconté, ça. Mmh. Donc, et Florentino Pérez, mettre 150 millions sur un milieu de terrain, défend, enfin, dans sa... c'est pas possible. Donc il est évident que là, le Real Madrid, qui a beaucoup de liquidités, parce que c'est un club très sain financièrement, c'est un club qui a fait 350 millions de bénéfices nets après impôt l'année dernière. Donc le Real Madrid va
précisément qu'en Espagne, les droits télé ont été touchés, ils ont tout versé, hein.
Oui, les droits télé ont été touchés. Après, il peut toujours y avoir des réclamations et tout ça, hein, tu sais.
Et si la Fresse termine pas, Espagne,
c'est un milliard de pertes.
Est-ce qu'en Espagne, tu as des gens qui écrivent, qui se prononcent en disant il faut pas que ça reprenne, c'est indécent si ça reprend, sans se soucier de l'économie qui va avec, et des gens qui bossent pour le foot, ce mouvement qui commence un petit peu à pointer son nez en France. Il y a des choses similaires là-bas?
Alors déjà, il y a personne ne dit qu'il faut pas que le foot reprenne. Ça, personne n'a osé parler. Oui, aucun président.
C'est quand même le club qui a mis en place la taxe Beckham pour que les plus hauts salaires.
La loi Beckham, c'était pas pour les footballeurs. C'était pour l'Espagne.
C'est pour ça qu'elle s'appelle loi Beckham, d'ailleurs.
Attends, mais je vais t'expliquer, mais je connais bien le sujet. Mais en fait, elle s'est jamais appelée loi Beckham. C'est dans les médias qu'on l'a appelée loi Beckham.
Mais non,
parce qu'au départ, c'est pour attirer les grosses entreprises et pour que leur haut cadre, qui touche beaucoup d'argent, ne paye pas d'impôts. C'est pour attirer du business.
Et c'était valable. Les footballeurs.
Et ça, à l'époque, ça pouvait concerner les footballeurs. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça marche toujours pour les gros salaires d'entreprises qui investissent en Espagne. Mais ça, il y a très longtemps, ça n'existe plus pour les Espagnols qui sont footballeurs espagnols qui sont très serrés au niveau fiscal. Ça, je peux vous l'assurer depuis la fameuse crise. Donc, et pour répondre à Daniel, ici aussi, il y a des gens indécents. C'est-à-dire, il y a un trio. Tebas, qui lui a quand même une vision. Même si je sais qu'il n'aime pas en France, très réaliste et pragmatique, en disant il faut que ça reprenne, mais à huis clos, etc. Parce que sinon c'est un milliard de pertes. Et puis si vous avez l'association des joueurs, une espèce de syndicat avec un type qui s'appelle David Alonso qui essaye d'exister. Et puis vous avez le président de la fédération qui
est. C'est ça, Jérôme Alonso, mais qu'est-ce qu'il faut dans cette histoire?
David Alonso. Et le président de la fédération, le fameux Luis Rubiales, qui lui, dès que t'es pas dit un truc, il dit le contraire. Donc bref, je vais pas vous dire qu'il y a une grande sérénité dans le foot espagnol en ce moment non plus. Hein. Mais personne n'a dit il faut pas que ça reprenne, etc. Non.
Alors les gens ont conscience que ça fait vivre des gens quand même, quoi.
Mais c'est 1,3 point de PIB par an, le foot en Espagne. Moi, ça m'énerve.
1,3 point de PIB, c'est énorme.
Mais c'est bien sûr, mais le foot, c'est énorme. Mais vous imaginez, à Barcelone, c'est 100 000 places. Le Bernabéu, c'est 80 000 personnes. Le tour du Bernabéu, vous allez simplement, le musée du Bernabéu, le tour du Bernabéu, mais c'est des centaines d'emplois qui dépendent.
En France, c'est
ça.
Le sport dans son ensemble qui fait 1% du PIB. Hein.
Mais en Espagne, c'est 1,3% le PIB du foot, si je dis pas de conneries. Mais vous regardez le tour du Bernabéu, par exemple.
Oui, qui est le musée le plus visité d'Espagne. De Madrid.
Après le Prado. Donc t'imagines, enfin c'est donc il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens qui vivent du football. Moi, ça m'énerve un peu quand on dit ouais les footballeurs ils pensent qu'au fruit. Mais c'est pas aux footballeurs. Les footballeurs ils ont de l'argent. C'est tous les gens qui vivent du football. Et dans les clubs, on en parlait l'autre jour. Il y a 450 employés au Real. Et sur les 450 employés, il y en a une trentaine qui gagnent beaucoup d'argent. Les joueurs et directeurs de section. Mais voilà. Enfin, donc il faut pas être non plus populiste et ridicule.
J'aimerais qu'on passe maintenant au Barça, si tu veux bien, parce que le Barça voit également les choses en grand pour son recrutement. Mais il faut vendre. On parle d'une liste de 9 joueurs de l'équipe première qui pourraient être vendus. Alors déjà qu'ils n'ont pas beaucoup de mecs sous contrat, le Barça.
C'est ça qui est fou, quoi. c'est que je vous l'ai expliqué, entre les blessés et les mecs qui étaient partis, il y avait une quinzaine de joueurs pour l'équipe première, donc ouais. C'était compliqué. Le Barça n'a pas d'argent. Le Barça a appliqué le chômage, n'a pas fait que baisser les salaires. 30%, hein, 30%.
Non, il 60, a aussi 70, on a entendu nous.
Non, mais non, je rigole, mais non, c'est 30%.
Ah bah non, en France, la communication, c'était le Barça baisse de 70%.
Mais c'est n'importe quoi. Eh ouais. C'est que les salaires baissent pas à 70%, pas à 2,70%. Tu comprends ?
Ah, ah nuance.
Bah oui, bah oui. Les joueurs touchent 70% de leur salaire. Pas tant. Ben non, pas tant. Non, mais vous connaissez. Non, mais non, c'est pas possible. Mais surtout, il y a une chose, c'est que il s'est perdu. C'est pas comme vous touchez pas pendant quelques mois et dès qu'on rejoue, on fera un rattrapage.
Oui, là, c'est une vraie baisse.
C'est une vraie baisse tant que ça ne joue pas. Mais le Barça, comme l'Atlético, comme beaucoup de clubs, ont fait un chômage partiel. Donc, c'est-à-dire que l'État paye une partie des salaires. Pas ceux des joueurs, enfin, ceux des joueurs jusqu'à un plafond, bien entendu. Hein, mais voilà, c'est le Barça n'a pas d'argent. Mais en plus, je vois pas comment le Barça peut recruter aujourd'hui, puisqu'il a pas d'argent. Mais je vois pas comment le Barça peut vendre beaucoup.
Ils disent vas-y. Ousmane Dembélé.
Alors, Dembélé, je vous rappelle qu'il est encore extrêmement blessé.
Oui.
Comment tu vends un joueur qui a pas réussi?
Apparemment, il y a le club italien qui s'intéresse quand même à lui.
En Italie, t'arrives encore à pigeonner 2-3 personnes, c'est vrai.
Ouais, mais à combien?
Oumtiti, par ailleurs.
Oumtiti, oui, tu peux le vendre. Enfin, tu ne tires pas beaucoup d'argent, mais Oumtiti, tu peux le vendre.
Le club est également prêt à laisser partir Todibo, jeune joueur qui, finalement, n'aura pas fait grand-chose, prêté cet hiver à Schalke. Coutinho veut retourner en Première Ligue.
Ouais, oui, alors s'il y a un pigeon en Angleterre,
Il était excellent à Liverpool quand même. Hein.
Ouais, mais il a coûté 150 millions, je crois. Donc ils vont perdre
de
l'argent.
Vendre à perte, ça c'est sûr.
Arturo Vidal, on vend. Rakitic,
ouais, c'est fini quand même.
Rakitic, il a encore un petit marché.
Rakitic,
mais bon, c'est plus un prix de l'année non plus.
Nelson Semedo, on vend. Junior Firpo, on vend. Et là, le Barça fait quand même savoir qu'il est prêt à vendre Martin Braithwaite.
Ah,
et
merde,
il y aurait des courtisans.
Ah, le même Martin Braithwaite qui dit « Je veux devenir une légende du Barça », il y a deux jours dans une interview. Il a intérêt à se dépêcher. Non, mais c'est-à-dire que la situation... Oui, il faut vendre. Enfin,
ça prépare le grand ménage quand même. Là.
Mais le problème, c'est que comment expliquer ? On ne sait pas ce qui va se passer à la tête du club. On ne sait pas s'il y aura des élections ou pas. Voilà, c'est ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans l'inconnu la plus totale avec le Barça. Mais si le Barça vend, le Barça va vendre à perte. Et comment ils vont pouvoir récupérer ? Voilà. Enfin, j'aimerais pas être le président du Barça parce que ça va être un club extrêmement difficile à gérer dans les prochaines semaines. Mmh. Et puis d'un côté, vous avez encore.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que Pierre, Jérôme et Daniel, depuis quelques semaines maintenant, on commence à se dire que le mercato, qu'est-ce qui va pas se passer. Certains disent, mais il va rien se passer, il y aura sans doute pas de mercato et tout. Et pendant ce temps-là, t'attends que le Barça et le Real, bam, eux, ils envoient dans tous les sens. On va acheter, on va vendre, on va machiner.
Mais bien sûr qu'il y aura un peu de mercato quand même.
Oui,
il y aura un peu de mercato quand même, parce à cause de la crise, il va falloir faire des liquidités.
Ouais, et puis attention à tout ce qu'on va lire là et tout ce qui va être quel est le vrai du faux là-dedans, quel est ce qui vient vraiment des clubs ou pas. On est encore très loin de ce
les
qui
agents
va,
vont faire monter la sauce comme tous les ans, donc.
Oui, voilà, ces enfoirés.
Ouais, après,
non, mais faut, voilà, on verra ce qui sera concrètement possible de faire pour ces clubs-là et ce qu'ils voudront faire.
Quand tu seras le Mino Raiola français, l'homme le plus influent du foot français, tu resteras dans l'after encore avec nous?
Jamais, mais bien sûr, la base.
Je sens que dans quelques temps, il y a d'un journal qui va dire Thomas Lemar est à vendre à 120 millions. 120 millions d'euros. Incroyable.
Lemar avait oublié,
dis donc. Ça serait beau.
Ah ouais.
Comment il va d'ailleurs?
Moi, je lui souhaite.
Ouais, moi, j'aime beaucoup.
Il va très bien.
Physiquement, ça va. Il est totalement remis.
Oui. Physiquement, oui. Là, du coup, il a eu le temps de se remettre de sa petite blessure. Oui. Et puis, non. Bah là, il bosse. Hein. Tu le connais un peu, hein, Fred. Hein, mais c'est très sérieux. Donc, il bosse comme tous ceux qui bossent en ce moment, tout seul chez eux. Hein. C'est pas le top et c'est long, mais il bosse très sérieusement, quoi.
Mais voilà. Tu sais, j'ai expliqué pourquoi dans l'after par moment, il a quand même été titulaire contre Liverpool à l'aller. Il a été sorti à la mi-temps. Il a fait une excellente première mi-temps. J'étais au stade. Et plein de gens disent, mais pourquoi quand même
Mais parce qu'il a eu une pointe à la cuisse. Mais sur le match de Liverpool, il n'y a aucun média qui l'a noté, mais il sort à la mi-temps parce qu'il a une pointe à la cuisse. Les médias espagnols ont relayé ça comme une sortie parce qu'il avait été mauvais, alors que c'est pas vrai.
Non, mais surtout, il faut expliquer quelque chose. C'est que Simeone apprécie beaucoup son travail à l'entraînement. Et ça, on sait que pour Simeone, c'est essentiel. C'est-à-dire, c'est un joueur qui ne donne absolument aucun problème à Simeone à l'entraînement. Parfois en match, c'est pas encore ce qu'il aimerait.
Mais qui est pas fait pour la méthode Simeone.
Mais même en match, Simeone aime beaucoup l'adaptation que Thomas Lemar a fait de son jeu pour s'adapter au principe de jeu de Simeone. Après c'est plus dur ensuite d'être aussi offensif, efficace offensivement, quoi. Mais c'est parce que les principes de jeu sont ceux-là, quoi. On les connaît, hein, effectivement. Et tu joues pareil Liverpool que tu peux jouer n'importe quelle équipe là-bas. Mais ça marche, hein, donc.
Merci beaucoup, Fred. On parlera de Luis Arconada un autre soir, hein, parce que là il y avait pas mal d'actu.
Dommage.
Non, mais on le fera un autre soir. On a le temps.
On fera quand tu. Alors on va bien.
T'inquiète pas, on a encore deux mois d'after sans match, là. On a le temps de venir.
Et pourquoi on devait en parler, messieurs? Il y avait une actualité précise ou c'était juste pour revenir
pour raconter un after story et Luis Arconada. Voilà. Bon, mais salut Fred.
Bonne nuit, les amis.
Bonne nuit.
Salut,
une dernière info franco-française, les gars. Là, une rumeur du soir. On parle pour remplacer Florent Maurice à Lyon de Bruno Cheroux.
Oui, j'ai vu ça et je n'ai pas compris en fait.
Alors en fait, il est très proche de Houllier.
Voilà, mais en fait c'est ça. Tu m'as devancé parce que j'allais en parler. Ce qu'on oublie très très souvent, c'est quand même que l'un des décideurs numéro un à Lyon, c'est Gérard Houllier. Jean-Michel Aulas
écoute. Des conseillers très écoutés, parce que décideur numéro un.
Il est consulté.
Écoutez, les amis, je vous jure que ça va un peu plus loin. Aulas écoute énormément Gérard Houllier. Rudy Garcia, c'est pas loin d'être une décision Gérard Houllier. Il est très, très écouté. Très, très écouté.
Bon, bah Bruno Cheroux, écoutez, je sais pas, il a jamais fait ça.
Tant mieux pour Bruno. Hein. Bah non, mais bon, il a un rôle. S'il peut prendre le foot féminin aujourd'hui.
Il est manager ou directeur sportif?
Il est directeur sportif
du PSG féminin. D'accord.
C'est ça.
Ouais.
Ok. Bon, voilà, c'est une rumeur du jour. Dans quelques instants, le choc. Le choc du cours numéro 1. Damien Perrinel, Jérôme
Thauvin. Cours numéro 1. On t'a dit du 17.
Ben non, mais le 17.
Le 17,
c'est bien. C'est bien le resto où Daniel va bouffer quand il va à Roland Garros. Arrête, s'il te plaît.
C'est bien. Il y a un mur à côté. Comme ça, tu peux t'échauffer avec le mur. C'est sympa.
Dans quelques instants, le quiz. On revient tout de suite avec Damien Perrinel, Jérôme Thauvin et Julien Cazard, bien sûr.
RMC jusqu'à minuit.
L'Afterfoot. Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, bien sûr. Tiens, je salue un tweetos fidèle qui s'appelle Herminig, qui est supporter rennais, qui râle toute l'année parce qu'on parle pas assez de Rennes. Et là, soir, il râle parce qu'il n'est pas passé à l'antenne. Le mec, il râle tout le temps, en fait.
j'ai pas mal d'affection pour lui parce que c'est un vrai fidèle, un supporter.
Mais c'est un foutu râleur, un chouineur.
Je lui ai dit plein de fois en privé et tout. Hein. Je lui ai dit, t'es vraiment un chouineur. Il est jamais content de ce qu'on dit sur Rennes.
J'en peux plus, vos auditeurs rennais, c'est même pas des supporters rennais. Bah, on en a eu un tout à l'heure.
Il ne fait que chouiner, c'est une folie.
Ouais. Julien Cazard, bonsoir.
Bonsoir. Comment allez-vous, chers
amis? Attention, Pierre Ducrot est là, Jérôme Rotten est là, Daniel Riello est là. On va lancer tout de suite le 8e final du soir. Jingle quiz.
Le grand tournoi.
Dans notre monde à nous, 1 + 1 = 2, 2 plus 2 = 4, comme ça on devient selfish, on prend du pognon et on partage pas. Ou peut-être que 1 + 1 = 11.
Julien, je vais te présenter ce soir le plateau. D'abord, j'accueille Damien Perrinel, qui est au téléphone, hein, bien sûr, confiné. Salut Damien.
Salut tout le monde, sauf
salut mon Damien.
Sauf à 1, je dis pas bonjour à 1, mais sinon salut tous les autres.
Ah, tu ne dis pas bonjour à Jérôme Thauvin.
Salut Damien.
Qui nous rejoint.
Salut à tous. Moi, je te dis bonjour Damien. Je te souhaite un très bon match.
Mais quelle belle voix.
Pas trop près du micro parce que tu n'as pas de bonnette. Voilà.
Pardon.
Quand il a pas la bonnette, c'est la petite mousse qui est entre le micro.
Je connais.
Oui, mais ceux qui nous écoutent ne te connaissent pas. Donc, comme on lit dans le milieu de la radio, si tu approches trop près du micro, ça poque. Voilà.
D'accord.
Ça fait poc poc.
Ça a donné quoi le match de Pierre Ducrot là? Je sais pas pourquoi j'ai oublié un truc là.
De quoi?
Il a perdu hier.
Contre Ducrot Macardy.
C'était un très bon match. C'est ça que j'avais oublié. Oui, c'était un beau match.
C'était âpre.
C'est bien. Oui, j'avais oublié.
Là, il nous reste deux huitièmes. Il nous reste Perrinel Thauvin ce soir et demain, Rotten Villas.
J'ai pas été assez familier.
Je pense que Rotten Villa, ce sera le plus beau de tous les matchs.
J'aurais pu plus avantager. Alors, Pierre.
Quand même, petit tour de table avant 8e de finale. Il n'y a pas de pari de foot en ce moment, mais on peut donner des cotes. À votre avis, la cote de Damien, elle est de combien sur ce 8e, Jérôme, Pierre et Daniel?
Sur une Coupe de France, peut tout arriver. Hein.
moi là-dessus, c'est du 60 Damien et 40 Jérôme.
Donc une cote de 2 pour Damien, quoi. Une cote
voilà,
de 4 pour Jérôme.
Ouais, alors vous dites combien vous dites combien pour Damien? Alors je tiens quand même à rappeler que c'est quand même moi qui ai les clés du quiz.
Ouais, c'est vrai.
Et que voilà, et que la cote peut varier en fonction du fait que j'ai fait quand même un quiz spécial Boulogne-sur-Mer, tout est sur Boulogne-sur-Mer et la Major League Soccer. Donc
on peut y aller, on a 10 minutes de quiz, les gars. Ça passe. C'est parti.
Il y a pas un peu de Clermont Foot, ça serait bien Clermont Foot.
Clermont Foot, il y a Clermont Foot, Boulogne-sur-Mer.
Heureusement qu'on n'a pas fait un coup sur la littérature, hein, avec le mal que t'as fait la littérature avec ton bouquin.
Oh, c'est chaud.
Bravo.
C'est chaud. Alors on va faire un spécial littérature comparée du 17e siècle.
En plus, c'est pas lui qui l'a écrit.
Livre de Jean.
Alors attention. Oui, ben non. Alors attention. Est-ce que vous êtes prêts?
On
va commencer doucement par un petit quoi qui kiffe kiffe. C'est bien, ça met en jambe. Alors quoi qui kiffe kiffe, messieurs Damien et Jérôme. Demetrio Albertini, Roberto Baggio, Luigi.
Ils ont raté un pénalty en Coupe du Monde.
Bravo, Damien. Dans une grande compétition. J'avais dit Biagio aussi en plus.
Camoranesi.
Bravo.
Je l'avais dit, absolument. Mais j'étais trop loin du micro parce que Gilbert m'a dit. Personne ne me voyait du micro.
Alors, tu sais quand même que le micro, il n'a pas le coronavirus. T'es pas obligé, t'es à 1m50 et te mettre dans le coude pour répondre.
J'étais à 4 mètres, je me suis rapproché de 2 mètres.
Ne réponds pas dans ton coude, hein. C'est important. Attention. Quoi qu'il kiffe, kiffe un deuxième, parce que c'est bien de se mettre en jambe une deuxième fois. Bournemouth, en avant, Guingamp.
Ils jouent en rouge et noir.
Et oui, j'avais Bournemouth, en avant, Guingamp, Milan AC, OGC Nice et Jeanne Masse. Non, j'avais pas mis Stade Rennais. Oui, Jeanne Masse joue en rouge et noir, évidemment. C'est connu. Attention, j'ai envie de passer à des... Avant, parce qu'on aime bien le Qui connaît la crise, qui est un peu un classique. Mais avant, le Qui connaît la crise, je vais faire quelques petits kick-a-wage ici. Kick-a-wage ici. FC Brøndby, Bolton, Galatasaray, Feyenoord, Djurgården, Breda, Toulouse,
Norwich.
Elmander.
Oh, je l'ai dit.
Il l'a dit depuis très longtemps.
Damien l'a dit, Périnel.
2-1 pour Damien.
Johan Elmander. Je ne sais pas si ça doit être rassurant de trouver Elmander aussi vite. Bah après, bon, voilà.
Il l'a trouvé très vite, c'est vrai.
Attention.
Elmander, rappelez-vous de l'anecdote. Il allait manger à Ikea à Toulouse. Parce qu'il trouvait que le cassoulet,
c'était d'avoue pour chien.
Exactement.
C'est pas complètement.
Il n'y a pas que le cassoulet à Toulouse.
Il allait chez Ikea. Il est juste ses boulettes de viande.
Enfin déjà, si tu vas bouffer à Ikea où ils te vendent de la merde, je crois que c'est pas là qu'il y avait de la merde dans les boulettes de viande.
Dans un gâteau.
Bon, on va se détendre sur le bouffon chien.
Dans les hot dogs.
Le chien au moins il bouffe pas sa merde.
Bon allez, 2-1 pour Damien, on enchaîne.
Attention. Bolton, Rangers, Doncaster, Sunderland.
Ça c'est de la vedette.
Leeds, Lens, Liverpool. Sochaux.
Ah ouais, ça je sais.
Blackburn. Stade Rennais.
Eh oui.
FC Sabah.
C'est facile.
Ah, putain.
Diouf.
Eladji Diouf.
Ouais, c'est ça.
Eladji Diouf. Magnifique. Qui a trouvé? C'est le supporter du Stade Rennais, évidemment.
2-2.
Évidemment. Et voilà, évite de dire c'est Jérôme, ça fait chanteur mort.
il est mort.
Attention. D'ailleurs, on dit c'était Jérôme. C'est la fameuse blague des années 2000 quand même.
2-2.
Attention. Qui kawaj ici? Inter Milan, Atlético Mineiro, Fenerbahce, Corinthians, Angie Makashkala, Real Madrid.
Roberto Carlos.
Roberto Carlos, Damien Périnel.
Ah, mais il y a un décalage en studio là.
3-2. Ouais, il y a un décalage. Bah oui, parce qu'il a les questions déjà à l'avance depuis une heure. Donc il y a un gros décalage.
Il est bouillant. Hein,
attention.
Reste 6 minutes.
Il est chaud, bouillant, patate. Mais qui connaît la crise de vous deux? Alors, on va, comme nous sommes en crise, hein, c'est important, nous sommes en crise, alors il est important de rappeler qu'il y a eu d'autres années de crise. Vous connaissez évidemment 1998, crise financière russe, la fameuse crise aiguë des marchés obligataires russes, provoquée par la démesure des dirigeants dans le hedge fund Long-Term Capital Management, ils sont sortis d'une crise de finances publiques, et le fight to quality russe, mais ça vous le savez tous, évidemment. En revanche, est-ce que vous connaissez bien l'année 1998 97, 98 exactement. Évidemment, qui... Je ne vais pas vous demander qui est champion en 98, puisqu'on sait que c'est le RC Lens, et on sait que le FC Metz était deuxième. Mais qui était troisième de Ligue 1?
Lyon. Marseille. Paris. Faux. PSG.
Non.
Nantes. Monaco. Non.
Monaco. Damien, alors...
De quelle année on parle?
98.
3-3.
Troisième, c'était Monaco. Attention,
3-3, Lens... 5 minutes.
Lens était champion de France, évidemment, mais il y avait un Camerounais à Lens... Fouet, Damien Périnel.
4-3.
Magnifique.
Ouais, c'est ça, Damien.
En 98, l'Inter de Ronaldo et Djorkaeff gagne la Coupe de l'UEFA, on s'en souvient. Mais qui perd en finale? Qui perd en finale? Non.
Facile, ça,
c'est une finale 100% italienne.
Ah oui.
Milan, c'est AS Rome?
Non.
Non.
Lazio.
Lazio, Damien Périnel.
5-3.
Cette Coupe de l'UEFA, qui s'est finie par Inter Lazio, a eu un meilleur buteur. Mais qui était le meilleur buteur de cette Coupe de l'UEFA? C'était un joueur français, étonnamment. C'était un joueur français qui a fini meilleur buteur de Ligue 1 aussi.
Stéphane Guivarch.
Stéphane Guivarch, Damien Périnel.
Stéphane Guivarch.
En 1998, il y a eu...
6-3.
Ça n'est échappé à personne. Une coupe, il y a eu une Coupe du Monde. Et il y a eu un France-Italie. Qui a raté le premier tir au but de la
finale
de ce... Lizarazu.
6-4.
L'Olympique de Marseille a joué la Ligue 1 en 97-98. Qui a fini meilleur buteur en Ligue 1 pour l'Olympique de Marseille? Qui a fini meilleur buteur de l'OM en 97-98? C'est étonnant, hein. C'est pas vraiment un poste où on finit meilleur buteur.
Let's go.
Ah si, je sais.
Non,
moi,
pauvre Jordan
Leschkoff. Laurent Blanc.
Laurent Blanc.
Bien,
Laurent
Blanc.
6-5. Il reste 3 minutes 30.
Putain, mais attends, les coulis, les coursives là, de Roland Garros, tout le monde veut aller sur le cours 17.
Ouais, est-ce que on est en 1998, on se rappelle de la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, magnifique. La finale de la Coupe de l'UEFA, mais qui gagne la Coupe des Coupes en 98?
Galatasaray.
Non.
Non.
C'est en 2000, je crois, 2001, ça, contre Arsenal. Non. En 98, c'est une équipe qui a dans ses rangs un ancien chevelu qui trichait, qui mettait une perruque. Dans le Grand Est.
Moi, je sais.
Il y avait un mec qui mettait une perruque dans le Grand Est, ouais. Et qui après était transféré à Chelsea et qui joue. J'ai dit Chelsea, je suis con.
Vous n'avez pas répondu assez vite.
En revanche, vous vous rappelez que le Brésil joue en finale toujours contre la France en 98. Mais le Brésil, il bat qui en demi-finale?
Bien, Pays-Bas, bravo.
Pays-Bas.
6-6, c'est pas vrai. 2 minutes 20.
Putain, vas-y Daniel, sur mes épaules, tu vas regarder.
En Ligue 1, on se rappelle que Stéphane Guivarch est meilleur buteur de Ligue 1 en 98. Mais qui est deuxième meilleur buteur ex aequo?
Roger Bolli.
Non, il y a deuxième et troisième meilleur buteur.
Roger Bolli.
Non.
Roger Bolli.
Non, Roger Bolli, il était mais avec Lens, mais trois ans avant. En 98, il y a eu le deuxième et le troisième buteur. Il joue dans une autre équipe, dans une équipe qu'on a citée avant.
Dugarry.
Qui était sur le podium de Ligue 1.
Vérel.
Une équipe qui était sur le podium de Ligue 1. À Monaco. Il y a deux joueurs de Monaco qui étaient deuxième et troisième. Non. Qui était deuxième
buteur? Trezeguet.
Non. Trezeguet.
Ah oui, Trezeguet.
Un point. Et qui était troisième meilleur buteur?
7-6.
Un joueur nigérian.
Mais oui.
Pépé Bas.
Ikpeba, oui, oh là 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 là,
énorme. Attention, alors ça fallait le sortir celui-là, bravo.
En Ligue des Champions.
Ikpeba, je sais.
Il reste une minute.
Deux points là. Oh.
Ouais ouais, 8-6, ah. 8-6. Ah ouais, 8-6. Qui est le meilleur buteur de la Ligue des non, qui est non, pardon, qui est le meilleur buteur de la Coupe du monde 98?
Souker.
Souker. 8-7. Il reste une minute 12.
Attention.
C'est fou ça.
J'ai un quoi qui s'est passé. Est-ce que vous êtes prêts pour le quoi qui s'est passé? Quoi qui s'est passé? Ah non, parce que Pierre, je crois qu'il le connaît, Jérôme Thomas. Je vais passer à autre chose. Ben non, tu le sais parce que j'en ai parlé pour un autre
c'est
quiz.
C'est bien, c'est fair play, bravo. 8-7,
attention,
toujours pour Damien.
On va faire un qui est précoce. Qui est précoce parce que on va jouer avec les joueurs précoces, c'est-à-dire qui ont démarré très très fort,
ah,
très très jeune. Attention. Drago, Lotus, Péril Jaune, Napapiri.
Hein?
Ivan Drago, Lotus, Péril Jaune, Napapiri. Drago, Lotus,
vas-y,
c'était Alvin Aland, vous ne l'avez pas trouvé. Ah, attention, Obama, oh. Les Griffes de la Nuit, Pelé.
Oh.
Les Griffes de la Nuit,
ah, c'est bon, c'est, j'ai trouvé ça,
Pelé,
ça, j'ai trouvé. Putain, je commence à comprendre ce jeu.
Je comprends pas.
Il faut
Freddy
trouver
Adou,
un joueur.
Freddy Adou.
Freddy Adou, c'est déjà qu'il a, donc vous l'avez pas trouvé.
Non, mais c'est parce qu'il
attention
trouvait pas, il faut accélérer. Ouais,
attends, attention, vous êtes prêts?
Vas-y.
Attention, un joueur.
Non, il a commencé la question.
8-7, terminé. Terminé. Victoire de Damien Perinel. Bah ouais, mais c'est le gong, mon vieux. Hein, ça se joue au gong.
Ah
ouais.
Attends, est-ce que je peux faire le dernier pour voir s'il y en a un qui aurait trouvé?
Vas-y.
Vous êtes prêts? Un joueur précoce. Bluff, Poussette, Canary, Top Spin, Concierge,
Pedretti,
Ecos, Panenka.
Landreau.
Landreau. pas de regret, Damien Perinel. Oui, Poussette, Landreau, Canary, Top Spin, parce qu'il a fait un effet Top Spin contre le Dynamo Kiev, dont se souvient Jérôme Bretagne. À l'effet Top Spin sur la sortie arrière.
Trop, fallait dire.
Top Spin.
Top Spin, c'est quand même poussé comme expression.
Damien Perinel se qualifie. Il affrontera en quart de finale Jonathan McCarty.
Bon, c'est bon, Jérôme, je peux aller sur le Susan Langen au moins maintenant?
Eh Damien,
franchement, ouais, là.
Attends,
là,
je veux juste te dire un truc à Damien. Tu vas rencontrer Jonathan?
Il
a dit qu'il allait te découper.
Non, Damien, il va l'exploser.
Il a dit des choses, mais franchement, un mec de ton niveau. Je peux pas supporter ce qu'il a dit.
Non, mais surtout, c'est que Jonathan, il s'enflamme, sachant que moi, c'est moi qui fais les quiz.
Et tu te souviens de son pronostic? Julien, tu te souviens, il a demandé pronostic contre Damien, il a répondu quoi? Une boucherie, voilà.
Bon,
il a
boucherie. La boucherie avant.
Demain
boucherie,
soir, 22h dans l'after, on parlera de Bordeaux, entre autres. Bien sûr, on vous donne rendez-vous demain. Merci. Merci Julien, merci Damien.
Ciao à tous.
Merci Jérôme. Merci.
Allez, bravo.
Pierre et Daniel, à demain soir, 22h.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.